en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Christian Duverger est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et sa communication s'intitule donc « Guerre fleurie, sacrifice et tribut dans la Mésoamérique préhispanique, l'exemple aztèque ». Alors, je prends toutes mes excuses pour ceux qui d'aventure parleraient ou liraient le nahuatl. Il y a des citations en langue originelle et je ne suis pas sûr du tout de ma prononciation. Je ne parle pas de l'accent. Alors, la guerre dans le monde préhispanique est un sujet rarement abordé, au point de constituer un véritable tabou lorsqu'il s'agit du monde mésoaméricain, cette ère culturelle qui englobe le Mexique et l'Amérique centrale. Il faut dire que l'association de la guerre et du sacrifice humain a toujours gêné historiens et anthropologues. Part inavouable des civilisations précolombiennes, le sacrifice a souvent été nié ou pudiquement passé sous silence. Pendant longtemps, les spécialistes ont volontiers représenté la Mésoamérique comme un territoire occupé par des agriculteurs pacifiques, ne connaissant pas le moindre litige foncier, ignorant les conflits ethniques, partageant les mêmes croyances religieuses en toute convivialité, et remettant leur destin aux mains de prêtres qui passaient le plus clair de leur temps à observer le ciel afin d'agencer un calendrier permettant de fixer les dates des semailles et des moissons. Observons au passage que ce courant idéaliste n'a pas encore totalement disparu. Puis, dans les années 1940-1970, une vulgate s'était imposée qui combinait diplomatiquement les évidences archéologiques et ethno-historiques avec l'idéologie pacifiste venue du XIXe siècle. Selon ce schéma, le début de l'ère mésoaméricaine correspondait au temps de la démocratie tribale, sorte d'organisation sociale à minima, où des groupes humains très peu nombreux vivaient épars sur un territoire ouvert. La Mésoamérique ne connaissait alors pas la guerre. Puis, vers le IIIe siècle de notre ère, ces sociétés devinrent théocratiques. Les exemples les plus emblématiques en étaient les Mayas et Teotihuacan. La Mésoamérique ne connaissait toujours pas la guerre. C'est seulement dans les derniers temps de son histoire, à partir du IXe siècle, que la Mésoamérique se transforma en un monde militariste sous la pression de tribus guerrières déferlant du Nord. Les premiers représentants de cette vague barbare sont connus sous le nom de Toltec. Le sacrifice humain aurait alors été promu par ces groupes belliqueux. Cette idée des autochtones pacifiques, confrontés à des envahisseurs étrangers, s'imposant par la guerre, a constitué le dogme enseigné dans les livres de classe américains jusqu'à une date très récente. S'y ajoutait l'idée que les sociétés archaïques, puis théocratiques, étaient égalitaires parce que pré-étatiques, et que l'État n'apparaissait que tardivement associé à la militarisation de la société. Dans ce contexte, la violence était étatique et la guerre un moyen de gestion économique permettant d'asservir la production agricole aux besoins de la société devenue complexe et hiérarchisée. En d'autres termes, il a toujours été difficile pour les scientifiques, à la fois archéologues et ethno-historiens, de traiter un sujet confisqué par l'idéologie. Mais il existe une autre raison qui a pu dérouter les chercheurs et les décourager de s'intéresser à la guerre préhispanique. Dans le Mexique ancien, rien ne correspond aux normes de l'ancien monde. La guerre s'y charge de fortes composantes ludiques et la dimension symbolique semble l'emporter sur la réalité des combats. Comment interpréter ces champs de bataille où les guerriers couverts de plumes précieuses font étalage de leur costume d'apparat. Comment comprendre que l'on fasse la guerre sans armes, que les charges des combattants soient rythmées comme des pas de danse au son des conques et des tambours, que les règles de la guerre soient gouvernées par la réciprocité, qu'il soit si difficile de distinguer le vainqueur du vaincu? Telles sont les questions auxquelles il faut répondre. Nous devons analyser la nature et l'essence de ce que les anciens Mexicains appelaient la guerre fleurie. Mais nous devrons également nous interroger pour savoir si la guerre préhispanique se réduit à sa forme cérémonielle. La Mésoamérique n'a-t-elle connu que des guerres sacrificielles ou bien a-t-elle pratiqué des guerres plus conventionnelles, nourries de véritables hostilités ou portées par le désir de conquête? Commençons par la guerre fleurie. Nous ne sommes pas démunis pour parler de la guerre chez les Aztèques. Maîtres du Mexique central au moment de l'arrivée des Espagnols, ils ont pu être observés de façon précise et nous disposons aujourd'hui d'une quantité appréciable d'informations. Les ordres mendiants chargés de l'évangélisation du Mexique, principalement les franciscains et les dominicains, ont en effet laissé des chroniques dont le contenu commence à peine à être exploité. Parmi ces premiers ethnographes du monde mexicain, qui ont su se muer en premiers historiens de l'époque préhispanique, citons les franciscains Bernardino de Sahagún et Toribio de Benavente di Montolinia, tous deux de notable mémoire. Parmi les dominicains, un nom s'impose, Diego Durán, auteur d'une magistrale histoire des Indes de Nouvelle-Espagne. D'autres chroniqueurs, peut-être un peu plus tardifs, composent également une source documentaire de premier ordre. Tezozomoc, Irtlil Rochil, Torquemada et bien d'autres, indigènes ou métis, parfois demeurés anonymes. Il est loisible de croiser ce matériel avec les données de l'archéologie qui, pour la vallée de Mexico, n'a pas été avare d'informations. Par exemple, les fouilles du Templo Mayor de Mexico, commencées en 1978 et toujours en cours, ne cessent de livrer de précieuses indications sur les rituels guerriers qui avaient lieu sur le grand temple des Mexicas. Pour comprendre la guerre en Mésoamérique, il faut entrer dans la logique du sacrifice humain. Depuis l'origine, toute la Mésoamérique est de tradition sacrificielle. Le sacrifice humain y est à la fois le socle de la religion et le principe organisateur de la société. Cette dimension sanglante des cultures précolombiennes a été mal comprise par les conquistadors et appelle toujours de notre part une instinctive réprobation. Le sacrifice humain obéit pourtant à une logique explicite. Il est une riposte organisée par les Mésoaméricains pour contrecarrer le phénomène de la dissipation énergétique. L'énergie cosmique est en effet perçue dans le Mexique ancien non comme une source intarissable, mais comme un stock promis à l'épuisement. Il s'ensuit que le devenir naturel de tout mouvement est de tendre vers l'immobilité. Le monde est ainsi condamné à la disparition, victime de l'inéluctable épuisement de ses forces vives. Pour enrayer cette dégradation de la dynamique du monde, il convient donc de restaurer l'énergie cosmique symbolisée par le soleil. Le soleil mésoaméricain n'est pas l'astre dispensateur de bienfaits qu'a imaginé l'ancien monde. C'est, dans le Mexique précolombien, un prédateur vorace. L'énergie tirée des hommes sacrifiés est là pour servir d'alimentation au soleil. La métaphore alimentaire n'est pas fortuite. Le soleil a besoin pour survivre de boire et de manger. De là découle la symbolique de l'offrande sacrificielle. Le soleil s'abreuve du sang des victimes immolées et dévore leur cœur. Et il appartient aux hommes de prendre en charge la marche du monde. C'est dans cette perspective qu'a été institutionnalisé le sacrifice humain. En conséquence, la guerre est orientée vers l'obtention de captifs pour le sacrifice. Il en découle que le champ de bataille n'est nullement un lieu de tuerie, puisque tous les participants s'efforcent de capturer l'adversaire vivant. C'est cette guerre fort originale que les Aztèques ont appelée dans leur langue, le Nahuatl, alors d'un mot très compliqué, Roshiyayoyotl, c'est-à-dire littéralement la guerre fleurie, ce qui en français pourrait se traduire par guerre-jeu, la fleur étant le signe du jeu. Cette dimension ludique, qui dans le monde mésoaméricain n'exclut nullement la sacralité, est indéniablement perceptible dans le rituel des affrontements. En pratique, ceux-ci s'organisent sous la forme de combats singuliers, se déroulant simultanément. La guerre est fondamentalement une addition de duels. Première surprise pour l'observateur occidental, les guerriers se rendent au combat en tenue d'apparat. Le costume, composé d'une tunique et d'un pagne, reflète le grade de celui qui le porte, grade qui est toujours fonction du nombre de captifs appréhendés. Rappelons que dans le monde mésoaméricain, on est ce que l'on paraît. Ce costume, toujours extrêmement soigné, bascule souvent dans le somptueux pour les combattants les plus gradés, ceux que l'on appelle les aigles et les jaguars. On emploie du coton brodé, teint de couleurs vives, relevé d'incrustations de pierreries et de plumes précieuses. Les soldats de la guerre fleurie portent dans le dos le tlamamali, une encombrante armure de bois servant de support à un panache de plumes précieuses. Disposée en rayon, celle-ci composait un impressionnant demi-cercle qui auréolait la tête des combattants. Dans la main gauche, chaque guerrier tient un bouclier circulaire qui est un peu le pendant de l'écu médiéval. Il figure les armes du soldat. Le dessin qu'il arbore indique le titre du combattant, son rang, son corps d'appartenance, sa divinité tutélaire, etc. Les boucliers étaient de véritables œuvres d'art où s'entrelaçaient, sur une armature de roseau, des bandes de coton et des plumes de couleur, mais aussi des plaquettes d'or, des grelots de cuivre, des pierres précieuses délicatement serties. La main droite demeurait libre. Les guerriers vont en effet au combat sans armes. La capture se faisait à main nue. Chacun s'efforçait d'attraper un ennemi par les cheveux. À cet effet, tous les guerriers impliqués dans la mêlée combattaient tête nue. Ils portaient une mèche distinctive qu'ils relevaient en toupet lors des affrontements. Attraper un combattant par sa mèche de cheveux suffisait à le transformer en captif. Le vaincu se rendait immédiatement, sans se débattre, et s'agenouillait au pied de son vainqueur qui lui liait les mains dans le dos. C'est ainsi que sont représentées toutes les scènes de capture dans l'art mésoaméricain. Le vainqueur tient son captif par les cheveux. Cette image, très standardisée, connote souvent l'idée de conquête. Évidemment, les chances de chacun devant être égales, il était interdit de se mettre à plusieurs pour attraper un adversaire. Chaque bataille était vraiment un face-à-face, un combat d'homme à homme, où l'art de l'esquive, la vivacité et la légèreté l'emportaient sur la force brutale. Qui plus est, la mêlée se faisait en musique, dans le concert des sifflets et au rythme des tambours, ce qui achevait de donner un caractère festif à ces scènes de guerre dansantes où les couples de combattants se balançaient sur leurs pieds, guettant la faille dans la posture de l'ennemi. L'absence de sang versé à la guerre s'explique par la logique du sacrifice. La mort est simplement reportée. mais elle n'est pas seulement différée, elle change aussi de polarité sociale. Son administration se voit transférée aux mains des prêtres. Les captifs ne demeurent sous le contrôle des armées que jusqu'à leur arrivée dans la ville des vainqueurs. Là, ils effectuent une entrée remarquée. Attachés en file indienne par une immense corde, ils poussent des cris de guerre terrifiants en gesticulant et en dansant sur des pas frénétiques. Ils sont accueillis par des délégations d'hommes âgés qui manifestent leur joie en les recevant avec des chants, de l'encens et des bouquets de fleurs. Les captifs sont fêtés à la fois parce qu'ils manifestent l'exploit des guerriers qui les ont capturés, mais aussi parce qu'ils vont permettre à la cité d'accomplir le pacte sacrificiel nécessaire à sa survie. Puis, les militaires accompagnent la caravane des captifs devant la pyramide du dieu auquel ils sont promis. Les prisonniers doivent alors se livrer à un rite assez curieux. Ils sont tenus de manger la terre, entre guillemets, de la ville où ils vont mourir. Pour ce faire, ils s'humectent un doigt de la main, en l'occurrence le médium, le portent à terre, puis le lèchent. Les captifs sont alors présentés au chef suprême. Il les remet aux prêtres qui se chargeront dès lors de veiller sur eux jusqu'au sacrifice dont ils auront la responsabilité. Pour mémoire, rappelant dans sa cruauté intrinsèque la nature du rituel dominant. Le sacrifice humain aztèque s'inscrit dans une fête requérant une longue préparation qui voit les futures victimes endurer des stimulations extrêmes. Danse interminable, procession, vigile, jeûne, mais aussi exercice ludique, épuisant, voire torture. Ces traitements de choc associés à l'ingestion de drogues abrutissantes visaient à amener les victimes dans un état d'hébétude et d'épuisement, rendant possible la mise à mort. Car le scénario qui attend la victime est des plus cruels, et il eût été impensable de l'infliger à un individu en pleine possession de sa conscience. Dans le rituel aztèque quasi systématique, la victime titubante est accompagnée jusqu'à la plateforme supérieure d'un temple. Elle est déjà symboliquement morte, puisqu'on vient de lui couper la fameuse mèche de cheveux qui concentrait sa force guerrière. Au sommet de la pyramide, elle est renversée, dos à la pierre sacrificielle, un parallélépipède de basalte d'une soixantaine de centimètres de hauteur. Quatre officiants maintiennent le supplicié par les membres, tandis qu'officie le prêtre sacrificateur. Il incise la poitrine de l'homme sous les côtes, plonge ensuite sa main dans les entrailles de la victime, pour se saisir du cœur encore palpitant. Il sectionne alors la crosse de l'aorte et la veine cave avec un couteau de silex. Le cœur extrait est immédiatement offert au soleil et placé dans un récipient cérémoniel, tandis que le sang versé inonde la pyramide et ruisselle jusqu'au sol. L'action des prêtres se terminait ici. Le sacrifié, une fois jeté au bas des marches du temple, était récupéré par le guerrier qui l'avait fait captif. Son corps servait alors à un rituel d'anthropophagie. Il était offert au cours d'un banquet à des proches du guerrier, parents ou amis, ainsi qu'aux prêtres impliqués dans l'organisation de la fête. Mais le capteur ne devait en aucun cas consommer la chair de son captif, qui était considéré comme une partie de son propre être. Lorsqu'on analyse les modalités de la guerre fleurie, on découvre que sa dynamique profonde est celle de la réciprocité. Les combats se soldent toujours par un échange de captifs. Il est frappant de constater que les batailles s'arrêtent toujours brusquement sur un coup de sifflet ou un battement de tambour. Elles paraissent être suspendues d'un commun accord entre les deux parties, sans qu'il soit possible de distinguer clairement le vainqueur du vaincu. Bien sûr, les chroniques aztèques ont tendance à présenter systématiquement les Mexicas comme victorieux de tous leurs adversaires. Mais l'on fait des captifs des deux côtés, et l'on peut penser que l'on met fin au combat lorsque, de part et d'autre, le quota de captifs est atteint. Dans la guerre de Mexico contre Chalco, par exemple, la dimension sacrificielle et réciproque s'impose à l'évidence. Voici le discours que le souverain de Chalco adresse aux émissaires mexicains. « Frères Mexica, vous devez savoir que dans 5 jours, nous allons célébrer la fête de notre dieu Camartli et nous voudrions la célébrer avec la plus grande solennité en faisant couler sur son temple le sang des Mexica. Aussi, nous vous demandons instamment que le jour de notre fête, vous vous présentiez en armes sur ce champ de bataille, car nous voulons honorer notre Dieu avec vos chairs. Nous vous demandons de nous laisser faire nos sacrifices pour la satisfaction de notre Dieu. » Les Mexicas acceptèrent le combat et, symétriquement, décidèrent d'honorer leur Dieu du feu avec les Chalcas qu'ils feraient captifs. Un autre élément troublant vient perturber notre perception de la guerre préhispanique, la métaphore de l'alimentation. Les victimes étant faites pour nourrir le soleil, le champ de bataille est assimilé à un marché où les soldats se fournissent en nourriture. Une citation : Nous avons besoin de trouver un marché où notre Dieu puisse se rendre avec son armée pour acheter des victimes pour les manger. Le marché doit se trouver près d'une cuisine où notre Dieu pourra trouver à tout moment ses galettes de maïs chaudes. Il faut que nos armées se rendent sur ces marchés pour acheter avec leur sang, leur tête et leur cœur les pierres précieuses et les plumes riches qui plaisent tant à notre admirable Huitzilopochtli. Fin de la citation. N'est-il pas métaphore plus déconcertante ? Le champ de bataille fonctionne comme un marché. Les guerriers y achètent, entre guillemets, des captifs en échange de leur propre sang, et le dieu tribal mange, entre guillemets, les victimes qu'on lui a cuisinées. Le caractère très ritualisé de la guerre fleurie, tout comme sa symbolique alimentaire, ont poussé les observateurs occidentaux à ne pas reconnaître dans cette pratique une vraie guerre. Traduit en termes iconographiques, le concept de la guerre sacrificielle est encore moins identifiable. L'expression nahuatl en usage est, je passe le texte original, l'eau, le feu. Chaque fois qu'un monument représente ce binôme, donc l'eau et le feu, fondateur de la pensée mésoaméricaine, il évoque la guerre et le sacrifice humain. Mais il le fait sous des formes allégoriques souvent non explicites. Par exemple, sous la forme d'un entrelac de 2 courants d'eau, l'un portant les disques du jade pour noter l'eau, l'autre des flammes ou des turquoises pour noter le feu. Sous une apparence fort esthétique, il s'agit en réalité de la représentation du sang sacrificiel. Le code de l'écriture mésoaméricaine inclut d'ailleurs des formes graphiques encore plus abstraites, jouant par exemple sur l'association des chiffres 2 et 3. Le chiffre 2 transcrit l'eau, le 3 le feu, par référence aux 3 pierres du foyer. Nous avons là une part de l'explication de la prétendue tradition pacifiste du Mexique ancien. En croyant avoir affaire à du figuratif ou à du décoratif, les chercheurs des siècles précédents n'ont pas su lire cette pictographie mésoaméricaine qui est pourtant bel et bien une écriture. Des guerres classiques. Si l'exigence sacrificielle des sociétés de l'ancien Mexique est avérée, et ce depuis les débuts de la Mésoamérique vers 1200 avant notre ère, demeure pourtant une question majeure. Cette ère culturelle a-t-elle connu d'autres formes de guerre plus proches des formes attestées dans l'ancien monde ? il semble que l'on puisse répondre positivement. Il existe de fait une catégorie de conflits que l'on pourrait qualifier de guerre punitive. Ces expéditions constituent toujours une réponse à un casus belli bien défini. Les déclencheurs de la guerre sont au nombre de trois. Le plus fréquent, en tout cas le plus souvent cité, est l'entrave au libre commerce. Il arrivait que des caravanes de marchands soient attaquées. Les dirigeants du territoire où l'incident s'était produit étaient alors tenus pour responsables et devaient affronter l'ire de la cité à laquelle appartenaient les marchands. C'est ainsi que les habitants d'Oaxaca s'en prirent à une caravane de Pochteca, commerçants de la vallée de Mexico, qui revenait de Coatzacoalco, chargée d'or, de coquillages, de carapaces de tortues à l'écaille précieuse et d'autres marchandises de grand prix. Les assaillants, des bandits de grand chemin, tuèrent tous les hommes qu'ils livrèrent aux vautours et s'emparèrent des richesses du convoi. Les troupes de la Triple Alliance, qui associaient Mexico avec les villes de Tercoco et de Tlacopan, fondirent sur Oaxaca. À titre de représailles, la ville fut rasée, le temple principal incendié, les vieillards, les femmes et les enfants froidement exterminés. Les maisons furent saccagées, les assaillants s'en prirent même aux dindons et aux chiens. Les seigneurs d'Oaxaca eurent beau implorer la clémence des Mexicas, les bras croisés sur la poitrine en signe de soumission, ils furent eux aussi exécutés. Et les armées mexicaines repartirent avec une impressionnante cohorte de captifs, laissant la ville désolée. De la même façon, la guerre de Mexico contre Coatzacoalco, grand centre commercial de la Mixteca, trouva son origine dans l'assassinat de 160 commerçants de la vallée de Mexico auxquels furent dérobées toutes leurs marchandises. L'interdiction faite aux vendeuses de Mexico de commercer sur le marché de Coyoacán déclencha la guerre entre les deux cités voisines. Les exemples de ce casus belli abondent. Lors de ces expéditions punitives, les militaires circulaient armés d'arcs et de flèches, de propulseurs de dards, de frondes et de sortes d'épées de bois couvertes de tranchants d'obsidienne. Ils pouvaient porter des armures de coton rembourrées pour se protéger des flèches des adversaires. Dans ces cas, l'engagement guerrier n'était pas simulé et la mort parsemait ces champs de bataille. Le déplacement de ces troupes en mission de représailles était d'ailleurs fortement redouté des populations civiles qui se trouvaient sur leur route, tant les exactions étaient fréquentes. L'agression de marchands et, d'une façon générale, l'entrave au libre commerce engendraient une rétorsion de nature économique. C'est le fameux tribut Tequitl. Ceux qui asséchaient le marché ou le déstabilisaient étaient punis par l'impôt. Les cités vaincues dans le cadre de ces guerres punitives étaient soumises au paiement d'un tribut livrable tous les 80 jours. La nature de cet impôt était naturellement fonction des richesses disponibles localement, parce que toujours les vaincus devaient livrer des haricots et du maïs, mais aussi des pièces de coton, des pierres fines, des peaux de bêtes. Les villes des terres basses fournissaient du cacao, de l'encens, du caoutchouc, des plumes précieuses. On voit bien que cette économie dirigée, contrôlée par la guerre, se substituait au libre marché chaque fois que la liberté de circulation subissait une entrave. Toute atteinte à cette liberté fondamentale transformer le commerce privé en économie publique administrée par la force. En bonne logique, le non-paiement du tribut constituait un autre casus belli. Lorsque les villes astreintes à l'impôt refusaient de s'acquitter de leurs dûs, Cette insoumission était considérée comme une manifestation de rébellion qui justifiait l'intervention de l'armée. En cas de victoire, Mexico avait coutume d'augmenter le tribut, ce qui finissait par décourager les velléités de révolte. Il nous faut dire enfin un mot du troisième type de casus belli, l'assassinat d'ambassadeurs. Depuis les origines, la Maison Amérique est une terre où la parole est influente. En permanence, des ambassadeurs sillonnent ce vaste territoire, soit pour négocier des alliances matrimoniales entre familles régnantes, soit pour obtenir des avantages commerciaux pour telle ou telle cité, soit pour éviter la guerre. Les usages voulaient qu'avant d'engager des hostilités, il y eût des négociations. Les diplomates avaient pour mission de proposer la paix. Il y avait toujours trois ambassades avant d'entamer un conflit. Les émissaires de la ville qui pensaient déclarer la guerre offraient des cadeaux à leurs futurs adversaires. Parmi ces cadeaux figuraient toujours des boucliers et des flèches pour que l'on ne puisse pas dire qu'ils avaient été vaincus par trahison. C'est une citation. L'assassinat d'un ambassadeur chargé de négocier la paix était donc, à juste titre, considéré comme une déclaration de guerre. L'expédition punitive s'en suivait, qui s'affranchissaient des codes de conduite traditionnels, comme l'avaient fait leurs adversaires en méconnaissant l'immunité diplomatique. Demeure une dernière question. La Mésoamérique a-t-elle connu des guerres de conquête visant à prendre par la force le contrôle de tel ou tel territoire? Le maniement du mot « empire » appliqué au monde aztèque a pu nous induire en erreur. Objectivement, il me paraît peu crédible qu'un tel type de guerre n'ait jamais été mené durant toute l'époque préhispanique. L'argument le plus fort contre l'existence des guerres de conquête tient à la structuration du territoire mésoaméricain. Je crains, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse de lecteur, là, que la phrase précédente, il y a un mot qui a été interpellé, elle dit le contraire de ce qu'il veut dire. Enfin, donc, il n'y a apparemment pas de guerre de conquête. Donc, l'argument le plus fort contre l'existence des guerres de conquête tient à la structuration du territoire mésoaméricain. Pour pouvoir être occupé par les hommes, la Terre a besoin d'être cosmisée, c'est-à-dire ordonnée à partir de paramètres symboliques. Chaque cité possède, par exemple, son nord, son sud, son est, son ouest. Ces axes structurants pouvant être largement découplés de toute référence astronomique. Dans le cas de deux villes voisines, juxtaposées dans l'espace, le nord de l'une pouvait parfaitement être le sud de l'autre. L'espacement entre les cités est également soigneusement calibré. Le territoire de l'Altépetl, non Nahuatl, de l'espace urbain qui inclut les terres agricoles, est calculé en fonction du temps de marche nécessaire pour se rendre du centre à la périphérie de la ville. Il fallait pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Cette distance excédait rarement 15 km. L'Altépetl disposait donc d'un territoire propre d'une trentaine de kilomètres de côté. Symboliquement et techniquement, il n'était pas possible d'étendre le territoire d'une ville. Aussi, l'accaparement de terres consécutif à certaines guerres punitives, souvent mentionnées dans les chroniques, est probablement une illusion d'optique. Les vaincus devaient en réalité payer un impôt sur les revenus de leurs terres. Mais pour des raisons structurelles et cosmologiques, les terres d'une cité ne pouvaient pas être transférées à un centre de pouvoir extérieur et distant. Cette réalité n'empêchait pas les mythes de fondation de présenter les territoires mésoaméricains comme le produit de conquête. Depuis les origines, les mésoaméricains figuraient sur des dalles horizontales des captifs symbolisant des villes conquises ou associaient des toponymes aux glyphes de la ville en feu. Lors de rites récurrents, les guerriers venaient danser sur ces dalles et piétiner la figure des vaincus. Ils affirmaient ainsi symboliquement le contrôle du territoire de l'Altépetl en réactualisant des conquêtes mythiques. Souvenons-nous que la métaphore guerrière est partout présente dans la pensée mésoaméricaine, mais elle demeure une métaphore. Par exemple, la succession des jours dans le calendrier préhispanique était perçue comme le résultat d'une bataille que devait livrer le jour entrant et le jour sortant. Il en allait de même avec les années. L'année nouvelle ne pouvait régner qu'après avoir vaincu l'année précédente. Nous avons vu la société mésoaméricaine engagée dans la guerre sacrificielle fortement sacralisée. Nous l'avons vue soucieuse de codifier des pratiques guerrières, allant jusqu'à développer une culture de la diplomatie pour maintenir la paix. Mais les civilisations précolombiennes n'en demeurent pas moins humaines, et dans l'histoire aztèque, nous avons des exemples de guerres irrespectueuses des usages culturels. Tel fut le cas de certaines guerres civiles visant à destituer tel ou tel gouvernant. Au rang des infamies figurait l'attaque de nuit, comme le fit le souverain de Tlatelolco, qui tenta de la sorte d'envahir Tenochtitlan, et bien sûr l'attaque par surprise, sans sommation, summum de la transgression. Naturellement, il existait aussi des cas d'hostilité culturelle ou d'animosité irrationnelle qui pouvaient à tout moment prendre la forme de la violence guerrière. Cortés en fit l'expérience. Et l'on sait qu'il construisit une grande part de son succès en nouant avec des groupes indigènes des alliances fondées sur l'inimitié viscérale que ceux-ci nourrissaient à l'égard de la puissance de Mexico-Tenochtitlan.